Chapitre 13, l'an 2028. L'aurore pointée, quand nous nous éloignâmes en cahotant de Davéga, laissant derrière nous le monde tropical de la grande jungle. À 10 heures du soir, nous entrions à Katmandou. Une nouvelle phase de notre expédition à Premier ministre. Le général Surendra me présenta un fonctionnaire qui m'apprit qu'il tenait à notre disposition l'autorisation de pénétrer dans les chaînes du Nord. Coup de fil au général Surendra, qui, je l'espérais, avait pu, pendant nos 2 semaines d'absence, joindre le Premier ministre et régler avec lui nos affaires. Hélas, son ton pessimiste me renseigna tout de suite. Je compris vite qu'il n'avait pas pu prendre contact avec le Premier ministre et que nous étions toujours frappés d'interdiction. Il me demanda quand même de rédiger un rapport détaillé sur tout ce que nous avions fait et vu et de l'envoyer au gouvernement qui, sans se montrer le moins du monde coopératif, avait apparemment très envie de savoir comment nos aéroglisseurs s'étaient comportés. Qui bloquait nos projets? Pour quelles raisons étions-nous retardés? Nous en étions à nouveau réduits aux suppositions les plus folles. J'hésitais à ennuyer davantage le général qui avait le teint pâle et me semblait découragé. J'appris qu'il était en fait très malade. Il semblait qu'il ne pouvait plus faire grand-chose pour nous, mais d'autre part, sans son aide, nous ne pourrions rien faire non plus. Il nous promit mollement, une fois de plus, d'essayer de voir le Premier ministre, mais celui-ci semblait avoir d'autres soucis que de s'occuper de nous. Malgré tous nos efforts, nous n'aboutissions à rien et je voyais venir avec angoisse le moment où nous devrions nous avouer vaincus. C'était d'autant plus navrant que maintenant nous maîtrisions parfaitement nos aéroglisseurs et que nous étions fin prêts à affronter les rapides les plus redoutables. Nous sentions le succès de notre projet à portée de main et voilà que pour des raisons politiques, nous n'avions plus le droit de tenter la grande traversée de l'Himalaya. En vain, pour nous consoler, d'autres voyageurs nous racontèrent-ils toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées avant d'obtenir leur permis. En désespoir de cause, nous demandâmes pour le moins l'autorisation de naviguer sur le Bagmati, la rivière qui suit la vallée de Katmandou, et sur la section nord du Sunkozi et de l'Indrawati, rivière que nous pouvions atteindre facilement à partir de Katmandou en 3 heures de camion, le long de la route chinoise qui mène au Tibet. La fatigue de nos voyages, aggravée par tous ces retards démoralisants, commençait à agir sur les nerfs. Bob était particulièrement impatient de retourner en Espagne. De toute façon, il devait y être avant le début de l'été. Marie-Ange, dont la passion pour les aéroglisseurs et l'intérêt pour notre expédition avaient fondu au soleil du camp, jugeait qu'elle avait mieux à faire que de traîner avec Bob à Katmandou dans l'expectative d'autorisation auquel il ne croyait plus ni l'un ni l'autre. Leur avis, je le découvris bientôt, était hélas partagé par nombre de mes amis de la vallée. Seul l'ambassadeur de Grande-Bretagne me soutenait à nous conseiller la patience. Malheureusement, il nous en restait trop peu maintenant que la mousson menaçait de venir noyer nos derniers espoirs. Bob nous porta un coup rude quand il nous annonça qu'il n'en pouvait plus d'attendre et qu'il allait faire une petite balade avec Marie-Ange au nord de Katmandou avant de partir pour l'Inde acheter du matériel pour sa boutique. Après 10 jours d'attente, je commençais moi aussi à me décourager. Ce fut Michael, le grand pessimiste, qui vint à mon secours. « Il faut rester, » dit-il. « Nous devons continuer de nous battre pour obtenir les autorisations. Il faut tout faire pour aller jusqu'au bout de notre expédition. » J'écrivis une lettre amère au Premier ministre. En appuyant sur nos intentions, soulignant ce que nous avions déjà réalisé et m'étendant sur les avantages que le Népal pourrait éventuellement tirer de notre expédition. Cette lettre lui fut remise en main propre. Pourtant, les jours passèrent et pas la moindre réponse. Pour tout arranger, il se mit à pleuvoir. Pire, non seulement nous n'avions aucune nouvelle de nos permis pour les hautes montagnes, mais il nous fut interdit de nous servir de nos engins même dans la région de Katmandou. Contre tout espoir, je continuais pourtant à croire qu'on nous permettrait d'aller de l'avant. Je décidai de faire appel à Sa Majesté le roi du Népal en personne. Je lui écrivis une longue lettre qui faisait état de tous les faits qui concernaient notre expédition, mais elle aussi resta sans réponse. Pourquoi? Jusque-là, nous n'en savions rien. J'étais désespéré. Autant s'avouer battu et partir. Mais Michael était d'avis de persévérer encore un peu. En attendant, nous décidâmes de remonter le Sunkozi par la route chinoise jusqu'à la frontière tibétaine. Quelle déchéance de devoir prendre un taxi comme de vulgaires touristes pour aller contempler les rivières du haut de la route pendant que nos engins restaient sans rien faire dans les jardins de l'hôtel. Le voyage fut quand même instructif et eut le mérite de nous faire un peu oublier nos préoccupations. Nous sortîmes de la vallée de Katmandou vers l'est jusqu'à un village nommé Dolaga où se rejoignent le Sunkosi qui vient du Tibet et l'Indrawati qui descend de la chaîne des monts Alambu. Les Chinois ont construit là un grand pont métallique où passe leur nouvelle route, la seule à pénétrer dans les hautes montagnes du Népal. C'est un ouvrage fantastique qui permet d'aller à Pékin par le Tibet et ce seul lien entre la Chine est considérable, mais malheureusement, les considérations politiques la rendent pratiquement inutilisée car aucun étranger n'a le droit de pénétrer au Tibet. Il reste néanmoins techniquement possible, aujourd'hui, d'aller par la route de Paris à Pékin via Lhasa, un voyage à faire rêver. Avant l'occupation chinoise, une importante communauté de marchands et d'artisans népalais s'était établie à Lhasa. Certains y ont toujours des boutiques et des ateliers et sont les seuls privilégiés à pouvoir emprunter la nouvelle route. Parmi eux se trouvent le clan Niwar et Dakwas, commerçants féodaux de l'envergure de Marco Polo, qui achètent au Tibet des marchandises au relent de romantisme, comme le musc et la soie. Le musc est le produit malodorant d'une glande qu'un petit cervidé himalayen porte sous le ventre et qui reste indispensable à l'industrie moderne du parfum. Le musc, aujourd'hui, vaut plus que son poids en or et on peut s'étonner que le monde moderne occidental ait encore besoin d'une substance aussi étrange. En échange du musc, les Chinois du Tibet importent du Népal une grande quantité de sucre, de grains et de kérosène qui leur épargnent de les faire venir de la Chine lointaine. Tout le long de la route, nous vîmes un grand nombre d'ingénieurs et d'ouvriers chinois qui portaient tous les casquettes et les vestes bleues du style Mao. En remontant en voiture le cours supérieur du Sunkosi, nous pûmes voir comment cette rivière passe de 1600 mètres à Dolaga à près de 2000 mètres au col du Kuti, point frontière le plus bas entre le Népal et le Tibet. Les 30 premiers kilomètres de la frontière nous parurent relativement faciles à négocier en aéroglisseur. Ce qui signifiait qu'avec une bonne réserve d'essence, on pourrait éventuellement remonter de la mer au nord du Népal en passant par Calcutta, Chatra et Tribini jusqu'à Dolaga et de là s'approcher à 15 kilomètres de la frontière du Tibet. Les derniers kilomètres jusqu'à la frontière étant trop raides, même pour nos petits engins. Notre taxi s'arrêta à la frontière, près d'un pont qui enjambait un petit filet d'écume. De l'autre côté du pont, deux gardes chinois armés jusqu'aux dents nous rappelaient qu'ils avaient libéré le Tibet. Pour moi, c'était un spectacle particulièrement attristant, car j'avais été le témoin très proche de la tragédie du peuple tibétain, dont le mode de vie et la culture ancestrale avaient été détruits en faveur d'un système politique étranger imposé par la force. Même si le Tibet était très en retard par rapport au progrès aléatoire de l'économie et de la technique du monde occidental, et même si le communisme lui a été économiquement bénéfique, ce qui est discutable, l'invasion du Tibet par les hordes chinoises reste une des grandes tragédies de notre temps. L'invasion chinoise s'est faite manifestement contre la volonté des Tibétains, non seulement des seigneurs féodaux et des lamas fortunés, mais aussi du petit peuple qui, depuis 1950, ne cesse de former des unités de résistants pour harceler l'occupant par des opérations de guérilla. Plus navrant encore est l'indifférence du monde entier à l'égard du destin du Tibet et la conspiration du silence qui entoure cette sombre page de l'histoire d'un des peuples les plus chaleureux du monde. Nombreux sont ceux qui, hélas, persistent à croire que les Chinois ont été une bénédiction pour le Tibet féodal. Ils oublient qu'aucune nation n'est disposée à être occupée militairement par des forces étrangères ni à accepter une culture étrangère, quels que soient les mérites de cette culture et les bonnes intentions de l'occupant. Derrière les gardes, à la frontière se dressaient trois bâtiments couverts de dragons peints en rouge et en jaune, dans le pur style des restaurants chinois. Ces bâtiments hideux, plantés dans un pays dont l'architecture se caractérise par la sobriété, soulignaient bien la différence des deux cultures. Je me détournai et repris tristement le chemin de Katmandou. Plus que jamais, j'entrevoyais l'échec de mon projet. J'avais tout misé sur cette expédition, et j'avais perdu. Ma seule consolation était qu'Atribeni et à Daveka, nous avions fait de notre mieux et affronté, non sans succès, 1000 dangers. Devant le refus des autorités de nous laisser poursuivre nos essais, je pensais que peut-être n'y a-t-il plus de place pour l'aventure et l'initiative privée dans notre monde moderne sans le soutien d'aucune organisation. L'époque des initiatives désintéressées était peut-être révolue. On ne juge plus l'homme que d'après les institutions qu'il représente, et il n'y en avait aucune derrière nous. Nous nous sentions abandonnés et impuissants. Si seulement le Premier ministre ou le roi avaient vu nos aéroglisseurs, ils n'auraient pas manqué d'être étonnés et auraient eu une idée de ce que nous voulions prouver. Mais ni le cabinet du Premier ministre, ni le secrétariat du roi nous avaient prêté attention. Aucun personnage officiel, pas même notre général, n'était venu jeter un coup d'œil sur nos engins. La patience est une vertu orientale. J'étais vraiment trop occidentalisé. Après tout, nous n'attendions nos autorisations que depuis 2 mois, et qu'est-ce que 2 mois à l'est d'Athènes? Malheureusement, la mousson, elle, n'attendrait pas. Nous étions le 24 mai, il nous restait maximum 3 semaines de beau temps. Le lendemain, nous prîmes nos billets pour l'Europe. En rentrant le soir à l'hôtel, le réceptionniste nous apprit que le général Sourandras Aha avait essayé de nous joindre au téléphone. Je l'appelai aussitôt.
« Pourriez-vous,
me dit-il,
faire demain une petite démonstration sur le Begmati? Je vous enverrai ma Land Rover à 9h30. Prenez vos dispositions pour que tout soit prêt. »
Il raccrocha sans autre explication. Je me précipitai pour annoncer la nouvelle à Michael. Sa réaction refroidit mon enthousiasme. « À quoi bon ?» me dit-il. « Pourquoi leur ferions-nous une petite démonstration? Il y a des semaines que nous attendons ici et personne n'a daigné venir voir nos engins. » Personne, à part le prince Bazundra, le frère du roi défunt. Il l'avait eu, sa petite démonstration, un vrai désastre. J'avais mis en route sous son nez un des appareils sur la pelouse de l'hôtel. Tout alla bien jusqu'au moment où je quittais l'herbe. Il n'avait pas plu depuis 2 mois, un immense nuage de poussière s'éleva autour de moi. Les yeux fermés, aveugle, je fonçais sur un mur. 10 minutes plus tard, la poussière se dissipa. Le prince Bazundra était toujours là où je l'avais laissé. Poudreux de la tête aux pieds, plié en deux, il étouffait, le nez dans son mouchoir. Très sportivement, il se déclara enchanté et nous invita à boire quelques verres de whisky au bar de l'hôtel pour nous nettoyer la gorge. Le général nous rappela un peu plus tard.
« Le Premier ministre viendra peut-être, »
dit-il.
« Préparez des machines dans le cas où vous auriez des ennuis mécaniques. »
Je me souviens de ce fiasco et frémis en pensant à ce qui se passerait si nos moteurs refusaient de démarrer. Nous passâmes des heures à fignoler, à huiler et à essayer nos engins. L'espoir revenait. « Le Premier ministre !» Nous allions peut-être obtenir nos autorisations. De toute façon, il n'était plus question de partir. Nous annulâmes nos réservations. En fin d'après-midi, le général vint nous chercher en voiture pour nous montrer le site de la démonstration. Nous allâmes à l'ouest de Katmandou en longeant le lit de Bagmati. La rivière était presque à sec. Un petit filet d'eau bordée de roseaux courait au milieu d'une série de vastes bancs de sable. Il y avait tout juste assez d'eau pour prouver les qualités amphibies de nos aéroglisseurs.
« Tout est bien fini !»
me dit-il tranquillement, Michael, tandis que nous allions nous coucher. Cette petite phrase m'empêcha de dormir. Le samedi 26 mai de l'an 2028, une belle journée que nous n'oublierons pas. C'était un samedi pour notre calendrier, mais un dimanche pour le Népal. Toutes les boutiques étaient fermées et le bureau vide. Une foule énorme, qui avait un petit air de fête, envahissait les rues. Nous traversâmes la ville en klaxonnant, un aéroglisseur sur le toit de la Land Rover du général, un autre sur celui d'une voiture que nous avions louée. Nous descendîmes lentement vers la rivière, en évitant des vaches sacrées, des coulis, des femmes habillées de couleurs gaies et des gosses qui venaient se jeter sur nos roues. Nous traversâmes le Bagmati et prîmes à gauche vers Kirtupur, la ville des nez coupés, au pied de laquelle s'élèvent les nouveaux bâtiments de la première université de Katmandou. À 10 heures pile, nous étions sur le théâtre des opérations. Le soleil commençait à réchauffer l'air frais du matin, les rives étaient désertes, à part quelques vautours qui sautillaient autour d'un chien crevé et des restes boursouflés d'un mouton. Nous étions très nerveux et déjà couverts de transpiration d'avoir descendu les engins sur un banc de sable au bord de l'eau. Un petit sifflement sinistre me fit remarquer qu'un des appareils avait une crevaison. Nous pourrions quand même nous en resservir en le gonflant à bloc avant le départ. J'arpentais nerveusement la plage. Des badauds commençaient à s'attrouper. Histoire de voir si tout était fin prêt, nous fîmes quelques essais. Bien nous en prit, quoique nous ayons bien vérifié la veille la corde des démarreurs, la première cassanette. Il fallut la remplacer. Nous voulûmes mettre en route le deuxième moteur. La même chose se produisit. Il nous resta heureusement une corde. On aurait pu croire au sabotage. À 10h30, personne, à part des curieux, n'était encore arrivé. J'avais l'impression de me trouver à la veille d'un examen. L'avenir de notre expédition dépendait sans aucun doute de cette démonstration. C'est du moins ce que nous pensions naïvement. Le Premier ministre devait forcément nous donner nos permis et nous expliquer pourquoi il nous les refusait. Il fut convenu que je piloterais l'aéroglisseur pendant que Michael vantrait ses mérites au Premier ministre, en insistant sur nos objectifs et nos ambitions. Nous étions en train de tout mettre au point quand arriva une voiture d'où sortit notre général. Très pâle, malgré le chapeau fleuri qu'il portait sur la tête. C'était un fez traditionnel du Népal qui, au lieu d'être noir, était orné de motifs fleuris roses et bleus. Personne ne nous avait encore dit qui, exactement, devait assister à l'exhibition. L'arrivée solitaire du général nous fit croire que tout était annulé. Mais il nous confirma que tout allait bien et nous parla vaguement de la venue de quelques membres du cabinet, de plusieurs ministres et probablement du Premier ministre lui-même. Il n'alla pas jusqu'à parler du roi, mais nous affirma que la cour serait représentée. Cette information de dernière minute ne firent qu'augmenter notre nervosité. Nous nous tenions comme deux ballots près de nos engins, dont l'un, avec son petit sifflement, avait l'air de se moquer de nous. Après nos exhibitions sur le lac de Banolas, sur la Seine et tout le long de la rue Saint-James à Londres, je pensais avoir acquis une certaine maîtrise, mais je me sentais beaucoup plus nerveux que devant le pire des rapides. Des centaines de gens avaient commencé à envahir la berge comme par enchantement. Puis, un officier fringant surgit d'une voiture, suivi de son état-major. Puis, un détachement de 200 hommes en uniforme kaki et en béret rouge, arrivant par colonne, par cinq par la route au pas cadencé. Toutes les forces de police de la vallée devaient être là. L'affaire prit aussitôt un tour officiel. Les policiers se mirent en position en haut de la berge et lancèrent des ordres à la foule. D'autres voitures arrivèrent, qui débarquèrent des fonctionnaires replets accompagnés de leur épouse en sari. L'un d'eux nous fit présenter comme étant le ministre des Transports, un autre comme son secrétaire. Ils étaient trop nombreux pour que nous puissions retenir leurs noms et leurs titres. Ils tournèrent autour de nos engins en faisant moult commentaires. La crevaison ne passa malheureusement pas inaperçue. Une femme poussa un cri.
« Il y a une fuite !»
Et tous d'accourir. Une crevaison, tout le monde sait ce que c'est. Quant au principe de nos aéroglisseurs, il demeurait obscur pour la plus grande partie du public. Je regardais nos chers petits engins avec un mélange d'orgueil et d'inquiétude. Et s'ils nous préparaient une panne catastrophique? J'avais terriblement envie de tout laisser tomber, mais la police faisait cercle autour de nous. Il n'y avait plus d'issue possible. La chaleur était accablante. Nous transpirions abondamment. L'attente interminable rendait tout le monde nerveux. À 11h30, toujours aucune nouvelle du Premier ministre. Le général Surendra me présenta à un fonctionnaire qui m'apprit qu'il tenait à notre disposition l'autorisation de remonter le Sunkozy et l'Indrawati. C'était déjà quelque chose, mais nous ne pouvions pas nous empêcher de craindre qu'il n'y aurait rien d'autre et que le permis tant attendu nous serait définitivement refusé. Nous exprimâmes aussitôt nos craintes au général qui recommença à se montrer mystérieux. Nous lui expliquâmes, une fois de plus, que du point de vue purement technique, il était indispensable d'essayer nos engins en haute altitude. Nous lui dîmes que personne n'avait jamais piloté un aéroglisseur aussi haut que nous nous proposions de le faire et que les calculs les plus savants ne pouvaient pas remplacer l'expérience. Si l'aéroglisseur doit être un jour utilisé commercialement au Népal, dis-je, pour terminer, il faut qu'il subisse des essais d'altitude.
« Je vous comprends très bien, »
répondit gentiment le général.
« Je ferai tout mon mieux. »
Il s'éloigna brusquement. Le Premier ministre, Mr. Geary, venait d'arriver. Ne serait-ce que par la taille, pas loin de 1m90, M. Giri aurait mérité d'être le plus haut personnage du gouvernement népalais. Il était jeune, élégant, charmant. Tout cela était très sympathique, mais ne nous livrait rien de ses pensées. Michael et moi lui montrâmes nos aéroglisseurs en lui expliquant le principe de leur fonctionnement. Nous lui permîmes même de jeter un coup d'œil sous les jupes. Il n'eut pas l'air tellement impressionné, mais il faut dire que devant une pareille foule, nos dinghies, posés côte à côte sur le sable, avaient l'air plutôt ridicules. Quand j'eus terminé mes explications, je proposai de passer tout de suite à l'action, mais le Premier ministre me demanda d'attendre encore un peu. Le roi allait-il venir ? Un quart d'heure s'écoula. L'autre rive était maintenant noire de monde. Il y avait des moines tibétains, des commerçants niwars, des gurungs descendus des collines, des représentants de toutes les tribus du pays. Personne ne devait très bien savoir ce qui allait se passer. Le Premier ministre me fit signe de commencer. Je saisis d'une main qui tremblait un peu la corde du starter. Michael donna quelques coups de pompe à l'engin qui se dégonflait. Je tirai une fois, deux fois, le moteur de poussée se mit à ronfler. À mon grand soulagement, l'autre l'imita. Je m'assis sur le siège de pilotage et poussai la manette. Le rugissement des moteurs envahit la vallée et le vent des hélices fit voler les saris des dames. Je leur montrai tout ce que je savais faire, sur le sable, le gravier, l'eau, la boue, les algues et l'herbe. Quelques grimpettes sur la berge, une glissade sur la plage, sous les yeux du Premier ministre. Je vis en passant que le général agitait frénétiquement les mains vers le ciel. Il s'attendait à ce que je m'élève comme un hélicoptère. Il n'avait jamais vu marcher un aéroglisseur. Michael dut lui expliquer, à sa grande déception, qu'il y avait déjà beaucoup d'air dans le coussin et que j'évoluais au-dessus du sol. Pendant ce temps, je continuais mon numéro sur le Bagmati en priant que mes hélices tiennent le coup. Je ne tenais pas à revenir à pied à la plage en pataugeant dans la boue. Je fis un retour splendide. Le Premier ministre me félicita du spectacle que je lui avais offert, me posa quelques questions, escalada la berge en souplesse et disparut. Les ministres, leur secrétaire, le général et tous les autres officiels le suivirent. Les policiers se mirent en colonne par cinq et s'éloignèrent au pas cadencé. La foule fondit à vue d'œil et nous restâmes seuls près de la rivière avec quelques traînards. J'étais content de moi. « Très bien, » dis-je.
« Qu'est-ce qui est très bien ?» dit Michael.
« Au fond, rien.
Nous n'avons pas parlé de permis, nous n'avons aucune indication sur l'avenir. Nous ne sommes pas plus avancés qu'avant. »
Je te ferai remarquer que nous avons obtenu l'autorisation de remonter le Sunkozy et le...
« La belle affaire. N'importe qui peut remonter le Sunkozy par la route chinoise.
Peut-être. » Mais l'Indrawati est certainement beaucoup plus intéressant, et je me rappelais en même temps que cet affluent n'atteignait que 1000 mètres d'altitude. Je continuais quand même à discuter. Il serait instructif de le remonter. Nous pourrions ainsi voir de près une rivière du Népal intérieur puisque nous n'avions pas encore voyagé dans la partie centrale du pays. En remontant cette rivière, nous parviendrons à une trentaine de kilomètres du Tibet, ce qui reviendrait à démontrer qu'on peut remonter presque tout le pays en aéroglisseur.
Quel avantage en retirions-nous ? Répliqua amèrement Michael. Nous ne sommes pas ici pour vanter les aéroglisseurs. Nous n'avons rien à faire avec l'industrie du coussin d'air.